France Inter, le 7-9.
Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La fusillade de Strasbourg dans les journaux ce matin.
Oui, elle est sur Internet d'abord, sur ces sites des journaux, car la presse écrite est fluide sur le web et nous accompagnait cette nuit et nous tempère aussi. Toute la nuit, la rédaction du Monde a répondu aux questions des internautes et vous allez le voir, le journalisme consiste aussi à admettre qu'on ne sait pas. Exemple, il était autour de 4h du matin. Je suis quand même étonné, l'assaillant a été confronté deux fois aux forces de l'ordre, il a réussi à s'enfuir blessé, est-il vraiment seul? Réponse, on ne dispose que de peu d'éléments, mais il n'a pas été fait mention d'une éventuelle complicité. Question, le côté opaque de toute l'opération, peut-on craindre quelque chose de beaucoup plus grave? Réponse, on peut aussi se dire que les autorités jouent la discrétion pour pouvoir travailler sereinement. Et ainsi, cette nuit, dans un média de direct, lemonde.fr plaidait pour la patience de la raison. Elle nous confronte aussi au mal, la presse, et l'Est républicain a révélé la photo d'un homme barbu, ce fameux shérif C qui fut condamné en 2011, disent les dernières nouvelles d'Alsace, pour avoir agresser un adolescent avec un tesson de bouteille. La police le recherche. Cette photo de shérif C orne aussi les comptes internet de soutien de l'État islamique. C'est ce que révèle l'Alsace qui renvoie au compte Twitter d'une spécialiste du terrorisme qui affirme que dans cette mouvance djihadiste, on préparait des attentats contre l'Occident pour Noël. En 2000, rappelle les dernières nouvelles d'Alsace, le marché de Strasbourg avait déjà été visé par Al-Qaïda. Le Figaro, vous le lirez sur son site, publie un papier saisissant et indispensable. Fiche S, mandat d'arrêt, ces individus déjà repérés qui sont passés à l'acte. Et défilent alors les noms et les visages du tueur de Toulouse et de Montauban, des assassins de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, des meurtriers du Père Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray, celui du policier Xavier Jugelé sur les Champs-Élysées, le portrait d'un homme qui décapita son patron dans l'Isère et de celui qui tua un couple à Magnanville et de l'auteur des attentats de Trèbes et jusqu'à ce jeune homme qui poignardait des passant à Paris au mois de mai dernier, tous connus et qui pourtant ont frappé. Et le Figaro, ce matin, sur le web, est une cruelle et précieuse mémoire.
Les journaux papier sont aussi marqués par l'attentat.
Et qui pénètre cet attentat à l'une comme par effraction. Il sème la mort au marché de Strasbourg, c'est dans l'Indépendant.
Mais cette mort est survenue quand les journaux partaient aux imprimeries. On les a changés dans l'urgence et la presse ressemble à la vie qu'un attentat déchire. Notre journaux témoigne de ce que nous pensions juste avant. Juste avant l'attentat, nous parlions de nos hontes. Un élu marseillais renonçait à ses fonctions et épinglé par Mars Actu, propriétaire d'un taudis qu'il louait à une maman et sa petite fille, dans un immeuble dont l'escalier est en train de s'effondrer, la Provence et la Marseillaise emboîtent le pas. Juste avant l'attentat, Libération et l'Humanité accompagnaient ces lycéens de Mantes-la-Jolie, arrêtés, humiliés jeudi dernier, main sur la tête, comme dans une scène de guerre, une policière aurait dit de ses enfants en garde à vue, on se croirait aux eaux de Thoiry. Juste avant l'attentat, la police était donc dure, mais pas seulement, et tout résonne ce matin quand la croix, sous ce titre, mon enfant a choisi un métier dangereux, raconte des parents inquiets et fiers dont les enfants ont choisi de nous servir dans l'armée ou dans la police, dans l'humanitaire ou chez les sapeurs-pompiers. Juste avant l'attentat, le Parisien était à Beauvais, dans cette supérette où en janvier dernier, on se battait pour du Nutella en promotion. Le journal voulait confronter les annonces d'Emmanuel Macron à cette France où l'on ne se fâche plus, car le président ne peut pas tout faire, lis-je, même s'il ne sait pas ce que c'est que survivre plutôt que vivre. Et ses coups de pouce changeront un peu la vie de Miranda. Je serai dans le rouge, dit-elle, le 20 du mois et non plus le 15. On disputait dans l'opinion et les échos sur la facture de la crise. Les gilets jaunes dans le courrier Picard ne désarmaient pas. Nicolas Bétou, patron de l'opinion, paraphrasait le communiste Maurice Thorez. Il faut savoir arrêter un blocage. Et à la une de l'opinion, le dessin de CAC montrait un Macron en épicier racketté, sa caisse vidée par un gilet jaune muni d'un gourdin qui murmure à la semaine prochaine. Mais y aura-t-il une semaine prochaine à l'identique dans cette France blessée?
Et dans le monde des gilets jaunes, Claude, l'attentat de Strasbourg provoque de curieuse réaction.
Et ce que vous allez entendre maintenant dans cette revue de presse est l'absolu contraire du journalisme, mais c'est pourtant ainsi que beaucoup de gens pensent s'informer. Hier soir, il était entre 8 et 9 heures environ, Maxime Nicole, que l'on surnomme Flyrider, et qui est une figure nationale des Gilets jaunes, habitué des plateaux télé, dialoguait sur sa page Facebook avec ceux qui lui font confiance. On venait d'apprendre la nouvelle de la fusillade de Strasbourg, on ne savait encore rien du bilan, mais spontanément, le leader Gilets jaunes réagissait ainsi.
Pour l'instant, personne ne sait rien, et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il n'attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur.
Et c'était donc le complot qui spontanément venait à l'esprit de Flyrader Nicole, habitué des plateaux télé, je le répète, et qui demande, c'est quand même un signe, à ceux qui le suivent de vérifier tout ce qu'ils entendent, y compris de ses bouches, comme si rien ne pouvait être vrai. Mais les gilets jaunes ne sont pas que le Flyrider. Quelques heures plus tard, c'était la nuit, un homme jeune entrait à son tour en Facebook Live. Il s'appelle Yannick Kronelmacker. Il est un leader des gilets jaunes en Alsace, connu pour défier l'État et aussi nationalement. Il a été blessé dans une manifestation. Il habite près de Strasbourg. Il était pâle, il était confiné chez lui. Et écoutez, ce n'était pas le même discours.
Donc pour tous ceux qui sont à Strasbourg, restez chez vous, fermez bien les portes pour votre sécurité, bien évidemment. J'ai l'impression de vivre un cauchemar.
Mais ayant dit son cauchemar, Kronelmacker, leader gilet jaune, invitait ceux qui le regardaient à témoigner à leur tour. Et soudain, le complot jaillissait à nouveau sur Facebook.
Donc c'était à prévoir. Je pense qu'on sait d'où ça vient. Donc c'est le gouvernement qui a fait ça. Faut pas se leurrer. Donc c'est eux qui l'ont fait. C'est pour détourner l'attention de ce qui se passe. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Donc demain matin, vous allez allumer vos télés. Ils ne vont parler que de ça. Les gilets jaunes, ça va disparaître. Donc du coup, ils vont essayer d'instaurer un état d'urgence pour empêcher les gens de manifester, d'une part, et d'essayer de plus possible de nous museler.
Et ce qui est fascinant, c'est que Kronelmacker, qui un instant plus tôt disait qu'il vivait un cauchemar, là hochait la tête, il l'approuvait. Il disait ensuite ne pas savoir vraiment s'il s'agissait ou non d'un complot de l'État. Il ne se prononçait pas. D'autres gilets jaunes allaient intervenir et rétablir la raison. Et Kronelmacker conclurait pour eux, voilà, on ne partirait pas vraiment sur un complot, finissait-il. Il souhaitait bonne chance et il disait à ses internautes de se reposer. Mais le doute avait plané un instant chez cet homme engagé, enfermé chez lui par un attentat sans qu'il sache s'il devait y croire dans cette nuit obscure dans notre France endeuillée.
Merci Claude pour cette revue de presse.